Un caillou dans la chaussure, bonjour. Au sommaire aujourd'hui, zoom sur Saint-Paul-Trois-Châteaux, la fête du livre de jeunesse qui a pour thème cette année le rire. La prochaine séance du petit cinéma de Photokino propose des films burlesques et muets. On retrouve là Nathalie Guimard, bonjour.
Bonjour Marie-Dominique. Et oui, on vous propose de commencer l'année avec le sourire. Et si possible, beaucoup d'éclats de rire en présence de Monsieur Harold Lloyd.
Et tout de suite, évoquons quelques-unes des multiples facettes de l'œuvre de Tommy Ungerer à l'occasion de l'exposition Le Bestiaire de Tommy Ungerer qui vient d'ouvrir ses portes à la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône à Marseille. Ce portrait de Tommy Ungerer a été préparé à l'aide d'enregistrements, à l'aide de la bande son du documentaire Trait pour trait pour entendre la singulière voix de Tommy Ungerer, réalisé par Philippe Poirier en 2007, un film visible actuellement à la Bibliothèque départementale dans le cadre de l'exposition Le singulier bestiaire de Tommy Ungerer, exposition ouverte depuis le 21 janvier et ce jusqu'au 24 avril. À l'aide aussi d'une conférence qui a eu lieu vendredi 22 janvier à la Bibliothèque départementale aussi. Vous entendrez la voix de Thérèse Wheeler, conservatrice du musée Tommy Ungerer, Centre international d'illustration à Strasbourg. Et à l'aide aussi de quelques mots d'enfants lors d'un atelier animé par l'association Photokino, samedi 23 janvier, toujours à la Bibliothèque départementale. Alors le tout pour donner envie aux papas, mamans et curieux qui nous écoutent de découvrir, connaître ou mieux connaître Tommy Ungerer, son œuvre, ses livres pour la jeunesse, d'aller voir l'exposition bien entendu, de participer à des ateliers autour de son imaginaire. Alors Tommy Ungerer est auteur de plus de 30 000 dessins pour des affiches publicitaires, des dessins pour enfants, des dessins d'observation satiriques ou érotiques. Il a reçu le prix Andersen en 1998 pour son œuvre pour la jeunesse. Tommy Ungerer, auteur d'albums dont Les Mélops, Les Trois Brigands, Jean de la Lune, Crictor, Flix et beaucoup d'autres encore. Alors, qu'est-ce qui fait que ce grand homme est reconnu comme tel?
Un caillou dans la chaussure.
Tommy Ungerer est férocement alsacien et cosmopolite, à cheval sur quatre cultures, entre l'Alsace natale en 1931 exactement, New York où il a vécu de 56 à 70, la Nouvelle-Écosse au Canada, l'Irlande où il réside aujourd'hui et l'Alsace toujours. Tommy Ungerer n'a de cesse de parler des hommes et de son temps. Il dit sa colère envers son monde contemporain qu'il considère comme violent et injuste. Tommy Ungerer a grandi pendant la guerre dans un milieu protestant rigoureux. Il a vécu les incohérences de la guerre, les interdits arbitraires. D'emblée, il a pris conscience de la dureté du monde. Il a très tôt commencé à dessiner.
Quand j'étais petit, c'était ma boîte à mémoire. Des fois, je me mettais seul dans un coin, je l'écoutais, je pensais à mon père. Avant de mourir, mon père disait « Alice ». Viens te promener avec moi dans ce beau jardin. Pour lui, la vie, c'était un beau jardin. Et pour moi, c'est un champ de bataille. C'est peut-être ça la grande différence.
Pour être honnête, on est avant tout en colère vis-à-vis de soi-même. Commencer parce que soi-même on est de toute façon un microcosme de tous les autres et c'est là que la colère commence vraiment quand on se regarde dans le miroir. C'est pas très marrant, mais enfin c'est quand même comme ça parce que la colère est basée sur les choses que l'on reproche aux autres et en fin de compte tous ces défauts on les retrouve en soi-même. Alors dans le fond toutes mes satires sont des Selbstbildnis, sont des portraits de moi-même en fin de compte.
Parce qu'avec un livre, on peut marquer la société, dit Tommy Ungerer. Il dénonce et met en exergue la cruauté de l'humanité, ses absurdités. Il nous alerte contre les dangers de déshumanisation, en fait, des sociétés. Il est engagé contre le racisme, la guerre, la société de consommation, le puritanisme. Tommy Ungerer est un passeur d'idées. Et si les thèmes que je viens de lister peuvent effrayer, ce qui lui a d'ailleurs été reproché, c'est justement en cela qu'il a participé à bouleverser l'édition jeunesse, à briser des tabous. Tommy Ungerer ne se censure pas.
Il était une fois trois vilains brigands. Le premier avait un tromblon. Le deuxième, le soufflet qui lançait du poivre. Et le troisième, une grande hache rouge.
Et les trois brigands aussi, n'est-ce pas? Alors là, on retrouve aussi, il y a deux choses qu'on retrouve vraiment toujours. Dans tous mes livres d'enfants, il y a deux éléments. C'est que la relativité de la morale qui m'a toujours fasciné. Parce que dans le fond, c'est quoi la morale des trois brigands? Ce sont des bandits, ce sont des mauvaises personnes qui volent, qui attaquent les gens, qui sont violents. Et finalement, un jour, avec leur fric, sous l'influence d'une fillette, ils décident d'utiliser leur argent pour construire un grand orphelinat. N'est-ce pas? Alors ça, c'est vraiment ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'il y a le bien et le mal. Ce qui me passionne, moi, c'est le no man's land, entre le bien et le mal. Et d'attirer le mal pour lui faire du bien. Alors là, on l'a bien eu. Donc,
les trois brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux.
Et alors l'autre truc, c'est que tous les héros de mes livres d'enfants, par la suite, jusqu'à l'heure qu'il est, ce sont toujours des individus qui ne sont pas comme les autres. Et c'est parce qu'ils ne sont pas comme les autres, par leur différence, qu'ils réussissent. Comme par exemple Émile qui est une pieuvre, n'est-ce pas, tout ce qu'il arrive à faire parce qu'il a une pieuvre. Crictor le serpent, tout ce qu'il arrive à faire avec son corps parce qu'il est un serpent. C'est pour montrer à l'enfant... Tu n'as pas besoin d'être comme tous les autres.
Alors, vous l'aurez compris, nous avons affaire à une forte personnalité. Tommy Ungerer est d'un tempérament frondeur, joueur, audacieux, désinvolte et tendre. Il cultive les paradoxes et avec lui, il faut s'attendre à l'inattendu. Alors, les dessins de Tommy Ungerer sont reconnaissables parmi tous. Son style se caractérise par le trait noir, appuyé, des couleurs fortes et contrastées, des fonds noirs en pleine page ou fonds blancs et des situations absurdes, grotesques, des images fabuleusement percutante et la satire est une constante dans son œuvre. Tommy Ungerer a de multiples sources d'inspiration que nous évoque Thérèse Villers. C'est un extrait de la conférence qui a eu lieu à la bibliothèque départementale. Elle était longue, dense, très détaillée et passionnante. En voici un court extrait.
Mais pour continuer de comprendre cette œuvre, il nous faut maintenant essayer de retrouver les traces de son inspiration, ce que moi j'appelle les échos graphiques et plastiques de l'œuvre de Tommy Ungerer. Elle est riche donc en genre, elle est riche aussi en thème, on n'a pas abordé ce sujet-là, mais c'est en partie parce qu'elle se nourrit à de nombreuses références de l'histoire de l'art. Tommy Ungerer, comme je vous le disais, a fait des études à l'école des arts décoratifs, où il n'a pas été très assidu, il faut bien le dire. Il s'est donc éduqué tout au long de son parcours, il a été presque autodidacte, il s'est beaucoup documenté. Nous avons aujourd'hui la chance au musée de conserver sa bibliothèque personnelle riche de 1700 ouvrages d'histoire de l'art et d'illustration. Et puis il a aussi puisé largement à des sources littéraires, voire cinématographiques. Alors toujours selon Friedrich Dürrenmatt, le dramaturge suisse, Tommy Ungerer n'imite personne, mais utilise beaucoup. Et l'artiste d'ailleurs lui-même le reconnaît, puisqu'il esquisse son itinéraire en disant, j'ouvre les guillemets, « Enfant, j'ai été essentiellement impressionné par Matthias Grünewald, Dürer, Schoenlauer, ainsi que par Hansi et Schnug, tous les deux des artistes alsaciens, plus tard par Goya, Bosch, les dessinateurs japonais, Hokusai, etc. » les vieux numéros du Simplicissimus et Wilhelm Busch. C'est dans les livres que son père, Theodor Ungerer, qui était un bibliophile émérite, avait réuni avec passion que Tommy Unger a fait ses premières découvertes avec l'art et avec le dessin. La bibliothèque de Théodore était le reflet de la culture alsacienne dans les années 30, du siècle dernier évidemment, à mi-chemin entre l'Allemagne et la France. On avait côte à côte les contes drôlatiques de Balzac, illustré par Gustave Doré, l'Alsace racontée aux petits-enfants, de Hansi, les éditions de la revue Munichoise Simplicissimus, Max et Moritz de Wilhelm Busch, les nouvelles genevoises de Rodolphe Töpfer, mais aussi Babar de Jean de Brunhoff, les animaux de Benjamin Rabier et les romans de Jules Verne. Et c'est cette double culture française et allemande qui va imprégner toute l'œuvre de Tommy Ungerer.
Alors pour aborder d'autres facettes de Tommy Ungerer, bricoleur, collectionneur de jouets, et évoquer les étranges et saugrenues métamorphoses qu'il fait subir aux animaux, pour en parler avec Nathalie Guimard, nous accueillons aujourd'hui Christine Fabre, qui travaille à la bibliothèque départementale. Christine Fabre, bonjour.
Bonjour.
Alors les animaux sont très utilisés par Tommy Ungerer, et on peut déjà remarquer que là encore, il se démarque pour lui, hein, c'est l'occasion déjà de marquer aussi sa personnalité, et il choisit des animaux. Émile est une pieuvre par exemple, donc des animaux pas communs. Crictor est un boa, Orlando un vautour, il choisit aussi un kangourou, etc., etc.
Une chauve-souris.
Et c'est à travers ce thème donc que vous avez choisi à la bibliothèque départementale de monter et montrer une exposition qui s'intitule Le bestiaire de Tommy Ungerer. Alors Christine Fabre, pouvez-vous nous raconter un petit peu la genèse du montage de cette exposition? Pourquoi avoir choisi de rentrer dans l'œuvre de Tommy Ungerer à partir de ce thème-là?
Bien, vous avez dit vous-même tout à l'heure que Tommy Ungerer a énormément dessiné. Plus de 30 à 40 000 dessins sont au musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Bon, il fallait choisir un angle d'attaque. On aurait pu en prendre un autre. Mais c'est vrai que si on regarde un peu l'œuvre de Tommy Ungerer, les animaux sont présents dans toutes les parties de son œuvre pratiquement, que ça soit les livres pour enfants, mais aussi le travail plus général qui est un travail pour adultes, etc. Donc ça nous a semblé intéressant de prendre cet angle d'attaque. On aurait pu en prendre un autre, comme je vous le disais, mais bon. Et moi, ce que je voudrais aussi dire par rapport à ça, c'est que nous n'avons pas voulu nous limiter à l'œuvre pour enfants de Tommy Ungerer. Ce qui aurait pu être fait, vu le nombre d'ouvrages pour enfants qu'il a produit. Mais nous avons préféré, avec ce thème des animaux, nous adresser à un public autant d'adultes que d'enfants. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? En tant que bibliothèque départementale, en tant que bibliothèque tout court, c'est vrai que l'illustration est un thème qui nous est cher. Tommy Ungerer, on le connaissait toutes et tous, donc pourquoi pas. Et puis des complicités avec les musées de Strasbourg ont fait que cette aventure a été possible. Donc voilà, ce qui est la partie la plus formidable de la préparation de cette expo, ça a été d'aller choisir à Strasbourg les œuvres, parce qu'il y en a tellement que, enfin, c'est absolument fabuleux. Donc il y a ce qui est exposé au musée, mais il y a les réserves qui sont gigantesques. Et voilà, donc l'exposition se divise en plusieurs, disons, chapitres ou thématiques. Et dans chaque série, nous avons choisi un certain nombre d'œuvres assez représentatives du travail de Tommy Ungerer.
Et qui montrent la diversité, en fait. Donc, ce que je retiens, c'est que vous êtes finalement, en choisissant ce thème, il est transversal, donc de toute son œuvre. Et surtout, je crois que ça met justement réellement en exergue une posture, son état d'esprit. C'est justement les frontières poreuses entre l'enfance et l'adulte. Et que son œuvre s'adresse aussi bien aux uns qu'aux autres. Et donc, ça a été difficile de choisir, les œuvres pour essayer justement de répondre à tout public.
Oui, alors ce qu'il faut dire aussi, Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, mais à propos de la manière dont Tommy Ungerer utilise les animaux, c'est que ce sont des animaux humanisés, c'est-à-dire qu'à travers le portrait de l'animal, que ça soit le boa, le chat, l'ours, il parle de nous, il parle de l'homme, il parle de la société, il parle de ses travers, il parle de sa cruauté, il en rit aussi. Moi, je trouve que quand même, une des choses qu'il faut retenir de Tommy Ungerer, c'est son humour corrosif. Je veux dire, donc c'est vraiment de la société contemporaine dont il parle. Il ne parle pas de la vie des animaux. C'est pas voilà.
Absolument.
Donc il y a une série que vous avez vue qui s'appelle par exemple Amnesty Animals, qui est très cruelle, dans laquelle il dénonce les mauvais traitements faits aux animaux. Au niveau de la cosmétologie, de la pêche, des cuisses de grenouilles qu'on mange, etc. Et en même temps, c'est peut-être la série la plus difficile peut-être à regarder. Mais voilà, je veux dire, il y a toujours quand même un côté humoristique et un côté de dérision qui fait vraiment la marque de son œuvre, je crois.
Mais elle est assez importante que cette série soit dans l'exposition, je trouve. Bon, on entendra un enfant d'ailleurs en parler un peu tout à l'heure, je crois, dans un enregistrement de Marie-Dominique. Mais ça permet de glisser un peu sur aussi ce côté satirique et puis un peu critique, surtout, de Tommy Ungerer. Parce que dans l'exposition, on peut ainsi expliquer aux enfants qu'il n'a pas fait que des livres pour enfants, même s'ils ne sont pas dupes, hein, quand ils lisent les livres de Tommy Ungerer. Mais on peut parler de choses un peu plus graves et...
Oui, après, je veux dire, il y a aussi toute une partie de l'œuvre de Tommy Ungerer qu'on ne voit pas dans cette exposition, c'est évident. Il a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand il était aux États-Unis, il a eu un parcours très militant. Il s'est beaucoup battu contre la guerre au Vietnam. Et bon, ces dessins-là, ils n'y sont pas. Ils sont assez connus, je pense, par un certain nombre de gens. Mais voilà, il y a des tas de choses... qu'on ne voit pas dans cette expo, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire, surtout avec un artiste comme ça. Voilà, c'est pour ça. Après, il faut aller à Strasbourg, au musée, voir aussi un certain nombre d'autres choses pour les gens qui ont été séduits par son travail.
Il y a aussi des sculptures. Hein.
Oui, alors ça, c'est son côté, un peu... Là aussi, c'est des sculptures assez drôles, puisqu'il... Il a fait des animaux en utilisant des matériaux de récupération. Donc, avec une pelle, comment on appelle ça, une balayette, des tas de choses comme ça. Il recrée des animaux. Il y a une chose qu'on n'a pas pu montrer dans cette exposition et que je regrette beaucoup. C'est que Tommy Ungerer, qui est un peu obsessionnel sur un certain nombre de choses, il faut bien le dire, était un grand collectionneur de jouets. Alors des jouets anciens, des jouets plus modernes, quand j'ai visité les réserves du musée de Strasbourg, il y a une immense pièce qui est absolument pleine de jouets et c'est absolument fantastique. Mais pour beaucoup, ils sont très fragiles, donc là, le musée préfère ne pas les faire voyager. Donc tant pis. Mais
d'où ça vient ça, cette volonté de collectionner les jouets, vous savez ?
Je pense que bon, comme pour beaucoup de choses. C'est vrai que le monde de l'enfance, quand même, est très, très présent chez lui. Bon, c'est vrai qu'après, il s'en est servi dans certains des livres. On voit qu'il utilise certains jouets, certains dessins de jouets. Je ne sais pas, c'était une passion. Écoutez, c'est absolument effarant. Je ne sais pas où il... Je pense qu'il avait une très, très grande maison. Parce que...
mais pas assez grande, puisqu'il a fait don donc d'un certain nombre de ses dessins. Et c'est pour ça qu'existe le musée Tommy Ungerer à Strasbourg.
Il a fait don. Ce que disait Thérèse Villers, donc la conservatrice du musée Tommy Ungerer, lors de sa conférence, c'est que par rapport à la France, Tommy Ungerer avait vraiment un besoin de reconnaissance. Il s'était senti mal compris, mal aimé. Alors qu'il exposait en Allemagne, aux États-Unis, au Japon et partout dans le monde.
Et même en littérature jeunesse, il raconte que les Mélops, par exemple, avant que ce soit édité aux États-Unis, il l'avait proposé en Europe et ça n'avait pas du tout été bien reçu.
Donc je pense que c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire qu'il avait envie que sa ville natale et son pays d'origine connaissent aussi son œuvre. Bon, il se trouve que là, ça a été jusqu'au bout, puisque la ville de Strasbourg a décidé de lui consacrer un musée. Donc, c'était la plus belle chose qu'elle pouvait faire pour lui. Mais c'est vrai qu'elle elle y est souvent revenue dans sa conférence. Le besoin de reconnaissance en France était chez lui important. Et je pense qu'on y participe un peu. Je veux dire, c'est juste ce que je voudrais dire, et ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais cette exposition, l'exposition qu'on peut voir aux ABD Gaston de Fer en ce moment, est la première grande exposition consacrée à Tommy Ungerer, au moins dans le sud de la France.
Dans le sud, oui.
Donc, bon, ben voilà, il fallait le faire.
Alors, on aurait pu aussi voir Tommy Ungerer de ce, en chair et en os, hein, parce que...
Oui.
Mais bon, il est... Parce que juste dire que ce musée a été créé de son vivant, voilà. Il
oui, bien toujours... sûr, c'est rare d'ailleurs
oui,
que,
tout à fait, c'est pour
de
ça.
Créer un musée du vivant d'un artiste, mais bon, Tommy Ungerer est âgé.
Mm-hmm.
Bon, il se déplace un peu moins, il vit la moitié de l'année en Irlande, la moitié de l'autre à Strasbourg, je crois qu'en ce moment il est en Irlande d'ailleurs. Voilà, donc il n'est pas venu, mais je crois qu'il sait qu'il y a cette exposition et je crois qu'il en est très content.
Mmh.
Et, mais d'après ce qu'on m'a dit, il continue à produire pratiquement autant qu'avant, donc il va encore y avoir des dons au musée de Strasbourg. Il est en train de faire un nouveau livre pour enfants. Non, je ne connais pas le thème, mais bon. Et voilà, il continue à dessiner. Il est toujours aussi actif.
Toujours aussi actif et prolifique. Oui. Bon, ceci dit, on peut le voir, il y a un petit film aussi au cœur de l'expo, qui a été réalisé en 2007,
oui.
Où on peut le voir voilà, en chair et en os.
Je crois.
Et enfin, souriant, et il évoque son parcours.
Je crois que pour les visiteurs, s'ils ont le temps, bien entendu, c'est bien de voir le film, parce que je crois qu'effectivement, ce film sur Tommy Ungerer présente bien l'ensemble de son œuvre et complète ce qu'on peut voir dans l'expo. Donc, moi, je conseille à tout le monde de le regarder. Il dure 25 minutes, je crois.
Et puis, on peut visiter l'exposition. Il y a des visites tous les samedis.
Il y a des visites tous les samedis à 15h, qui sont animées par l'association en italique. De même, on a essayé, alors là c'est sur inscription, mais tous les jeudis à 18h30, on fait une visite spéciale. Ça, on demande aux gens de s'inscrire parce qu'on ne sait pas encore très bien si on va avoir beaucoup de monde. Mais c'est possible de venir après le travail à 18h30 visiter l'exposition. Et par ailleurs, il y a des visites tous les jours pour les groupes scolaire et le mercredi pour d'autres groupes, centres agréés, maisons pour tous et associations. Là, il faut s'inscrire. Je dois dire que pour les personnes qui nous entendent et qui voudraient encore inscrire des groupes, il faut se dépêcher parce qu'il ne reste plus beaucoup de créneaux de libre. Mm-hmm.
Même si l'exposition dure jusqu'au 24 avril.
Oui,
avril, donc
oui ça fera 3 mois.
Alors, il y a aussi possibilité de s'essayer à travers des ateliers, Nathalie, puisque
oui.
Tommy Ungerer, donc si on rentre d'une manière plus détaillée, il manie les collages, il l'assemble. Et Nathalie, tu t'es intéressée de plus près avec l'association Photokino, donc vous organisez des ateliers avec les enfants. Il y en a déjà...
Il y en a eu un.
Voilà, samedi
alors,
dernier.
Voilà, c'était surtout une commande, une demande de Christine Fabre, entre autres, hein, et de la bibliothèque départementale. Qui a pensé à nous, merci, parce que Tommy Ungerer, c'est un sujet génial, c'est un vrai bonheur. Alors bien sûr, nous, on aime Tommy Ungerer parce qu'on s'intéresse beaucoup aux arts appliqués au sein de Photokino, aux artistes qui manient autant l'art de l'affiche que l'art de l'album, voilà, ou même la sculpture. Alors là, c'est un homme complet pour nous. Et ce qui est super, c'est que dans l'atelier qui a eu lieu la samedi, c'est immédiat comment ça communique aux enfants, de passer par l'exposition avec eux. D'abord pour quand même sentir sa patte et puis la diversité de ses techniques. Hein, alors présentant, je ne sais plus leur nom, mais à chaque fois je l'appelle Nestor, il ne s'appelle pas Nestor, mais enfin leur, ces petits personnages faits de pelles et de balais-brosses, comme celui qu'on voit à la fin du petit catalogue qui a été édité là.
Il y en a qui s'appelle Nicolette.
Nicolette, oui, tu te souviens, j'ai oublié leur nom. Mais en tout cas, voilà, en passant par là, en passant par les Amnesty Animals, ça permet de... Et par la série Click Clack, dont je vais parler un petit peu plus, ça permet de montrer bon, son art du dessin, bien sûr, sa facilité du trait, l'art de la mise en couleur, l'art du collage, l'art de la sculpture. Enfin, il a tout exploré. Et puis surtout, de leur dire qu'il a pas fait que pour les enfants aussi. Donc, il s'est peut-être servi de thèmes, les animaux, les contes de fées, pour parler au plus grand nombre, mais on peut aussi leur souffler qu'il a aussi parlé qu'aux adultes avec certains ouvrages. Alors, on commence par une visite un petit peu de l'expo, puis ensuite en atelier, je m'attarde sur Clic-Clac, cet ouvrage malheureusement épuisé, édité à l'école des loisirs, un ouvrage singulier de Tommy Ungerer, trop peu connu. Alors, si vous voulez le voir, allez voir l'exposition, vous verrez des originaux, et puis sinon, vous pourrez emprunter le livre même à l'Alcazar, ou... Enfin, je sais qu'on peut le consulter à Lille au Livre, en tout cas. Et le Clic-Clac, alors, pour en parler un petit peu, parce que là, je le feuillette, et si vous ne le connaissez pas, comment vous en parler? C'est un livre qui détonne par rapport aux autres. Par exemple, je parlais encore tout à l'heure avec Sébastien, notre régisseur. Tommy Ungerer, tu connais Non. Puis j'ai montré Les Trois Brigands. Ah oui! Ça, je connais. Super. Et c'était un peu comme ça avec les enfants. Je leur ai dit, voilà, vous voyez les collages derrière moi, Clic-Clac. Tommy Ungerer, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit Les Aventures de la Famille Mélops, Papaski, Crictor. Et Les Trois Brigands. Ah ouais! Les Trois Brigands, oui, je le connais, je l'ai lu, oui. C'est son best-of, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, il a eu une œuvre au début plus proche de Babar, hein, dont d'ailleurs il a dû s'inspirer, avec des dessins au trait simple, une mise en couleur très fine, sur un fond blanc, qu'on peut trouver dans Crictor ou Émile, entre autres. Et on retrouve un peu cet esprit-là dans Clic-Clac, des grandes pages plutôt blanches avec un dessin au trait et inspiré par des petits morceaux collés. Il a dû découper dans des magazines ou des catalogues du type Manu France des images, des morceaux de personnages. Là, je vois des fusils, des lits, des coffres à bijoux, des canapés, des sacoches, des culottes, des cuvettes de toilette, des petits, comment on appelle ça, des corsets ou des soutiens-gorge, des machines à écrire, des chaussures, voilà. Alors à partir de ces objets qui sont de l'ordre du commun, du quotidien, il a imaginé que ces objets faisaient partie d'un personnage ou d'un décor. Alors le clavier de machine à écrire, ça devient la dentition d'un hippopotame. La machine à écrire entière devient la tête d'un gorille. Sous le soutien-gorge, ça devient la visière d'un chevalier ou le casque d'un motard. La culotte, ça devient la tête d'un indien. Voilà. Bon, après, il a aussi, il s'est amusé avec des poissons entiers qui deviennent des hors-bords, des poires qui deviennent la tête d'un teckel, ou bien sûr des saucisses qui deviennent un chien saucisse. Enfin, c'est assez exceptionnel tout ce qu'il a expérimenté. En tout cas, c'est très stimulant quand on présente ce livre à des enfants et à des adultes. Hein. J'ai pas encore testé, mais je sais que ça marche. En fait, voilà, c'est le déclencheur un petit peu du dessin aussi. Voilà, on part d'un élément découpé et on imagine comment cet élément découpé peut devenir un dessin. Et en atelier, ça a été super fort, cet amour en fait de ces images. La réaction et l'enthousiasme. Et puis les créations étaient un peu époustouflantes.
Là, on va prendre ça.
C'est très intéressant. On met le chapeau à la
De couleur.
Ah ouais, le gâteau, là.
Ça fait le gâteau à la place de la tête.
Moi, je mettrais ça, le gâteau à la place de la tête. Ça serait bien. Non.
En fait, je vais faire un coq avec un bec là, et là ce sera son corps. En fait, c'est un petit poussin. En fait, le plus original dans mon dessin, c'est le coq. Parce que là, c'est des ciseaux et là, c'est le truc d'un aspirateur.
Peut-être que tu peux rajouter quelque chose pour que ton œuf soit original.
Je vais trouver une autre feuille.
La chouette.
Regarde la
lumière. Oh, comme ça. On dirait une chouette.
Ce que je vais lui mettre, on dirait un humain, c'est bizarre. là. Parce que j'ai pas fait d'oreille.
J'ai pas fini les ongles.
J'ai quand même un trop de couleur, moi.
Ah, j'ai une idée pour les oreilles.
Quoi?
Ça t'a plu, la visite de l'exposition?
Ouais. Le truc que j'ai pas du tout aimé, c'était les trucs tristes avec les animaux.
Non.
Ça, j'ai pas du tout aimé.
Quelle image? Tu peux me la décrire?
Le lapin.
Ouais.
Il était triste.
Ouais.
La tortue aussi. Et celui qui m'a vraiment marqué, eh ben, c'est l'hippopotame avec les habits, le rhinocéros, je sais plus ce que c'était avec les habits. C'était ce que j'ai aimé le plus en fait.
Les animaux habillés comme les humains.
Ouais.
Alors, on était dans un atelier mené par Photokino autour de l'œuvre de Tommy Ungerer. Donc, Nathalie, les prochains ateliers, est-ce qu'il y a des dates précises ou est-ce qu'il faut téléphoner pour s'inscrire?
Alors, il faut téléphoner pour s'inscrire de toute façon, c'est comme pour les visites, parce que malheureusement, je crois qu'il n'y a déjà plus beaucoup de places qui restent, mais il y a encore...
En cas de désistement, il y a une liste d'attente.
Voilà, voilà. Il ne faut pas hésiter à se mettre sur liste d'attente parce que parfois, les gens ne viennent pas. Alors, il y a encore 4 ateliers publics et puis un atelier réservé à un groupe. Voilà, donc les prochains ateliers, ce seront le samedi 30, le samedi 6 et puis les mercredis 3 et 10 février.
Christine Fabre, merci. Peut-être vous pouvez nous rappeler les dates donc de l'exposition et éventuellement rajouter quelque chose qu'on aurait oublié pour donner envie d'y venir.
Non, mais bon, alors les dates, donc ça a commencé le 21 janvier et c'est jusqu'au 24 avril, donc 3 mois, aux Abbés des Gastons de Fer, à Arinques, du côté de la Joliette. C'est un bâtiment qui est peut-être pas encore très très connu de tout le monde, mais qui vaut la peine.
Ça vaut le détour.
Ça vaut le détour.
Le tram nous y emmène presque devant la porte.
Le métro arrive à 5 minutes, mm-hmm. Station Désiré-Clary, le tram à 5 minutes aussi au terminus. Donc c'est pas très difficile d'y venir, mais c'est vrai que c'est un quartier encore en plein bouleversement et pas encore très fréquenté par les Marseillais. Donc voilà, moi je crois que c'est vraiment une exposition et une œuvre qui valent la peine d'être découverte. Donc j'invite tout le monde à y venir. Et ça nous fait plaisir en plus de les recevoir le public.
Ben, merci beaucoup pour cette initiative et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt, Christine.
Amokokadis, amanitsael, chrysanthème canine, morsure varicelle, migale tarentule, épine, porte-avions, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Guillotine, cirrhose, nuit blanche, les bommettes, mirador, stasi, siphon, baïonnette, fleurie, mérogis, la rue, l'oriston, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amygdale, pavot, vérole, aspirine, échymose, ortie, sanglot, carabine, carmélite, javel, cobra, charenton, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Camorra, péplum, cyanure, mafioso, Tiananmen, amen, rasoir et ciseaux, hostie, Vatican, Jean-Marie, mormon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. si Tchernobyl. Atomes, neutrons, neurones et citrons. Et toi, c'est quoi ton petit nom ?
C'était Tout ce qui est dégueulasse, d'un texte d'Alain Leprest, interprété par Olivia Ruiz, extrait de l'album Chez Leprest. Et tout de suite, le petit cinéma de Photokino.
Le petit cinéma.
Et si on allait au cinéma mercredi 3 février à 10h, voir des films burlesques par exemple, pour éclater de rire, un peu, beaucoup. Propose de voir ou revoir ce mercredi 3 février trois mésaventures d'Harold Lloyd, trois courts-métrages des années 20, des films sans parole, intemporels et en musique. Troisième grand comique du cinéma muet américain, avec Charlie Chaplin et Buster Keaton, Harold Lloyd est resté célèbre comme l'homme aux lunettes d'écaille. Élégant, souriant, il est le type même du garçon de bonne famille, juste un peu plus loufoque et casse-cou. Il s'embarque aisément dans des courses-poursuites ou des acrobaties périlleuses, tellement drôle pour nous les spectateurs. Mais Harold est aussi un romantique. Le prétexte à ces péripéties est toujours le même. Séduire la belle Mildred, qui l'épouse d'ailleurs presque toujours à la fin.
Crapaud-grenouille. Radio-grenouille.
Ce programme, que l'on doit encore à Carlotta Film, distributeur de cinéma éclairé, réunit trois aventures d'Harold. Dans « Où la belle voiture ?», Harold rêve tout d'abord que Mildred s'est mariée avec un autre. Malheur. En fait, il rêvait. C'est justement Mildred qui va le réveiller par un coup de téléphone. « Vite, vite, le spectacle va commencer !» Il monte dans sa voiture toute neuve, une voiture qui n'en fait qu'à sa tête et qui rend fou notre héros. Cela en devient surréaliste. Au moment d'une panne, Harold virevolte sur des pots de banane, disparaît carrément dans le moteur de sa voiture, comme avalé. Et un peu plus tard, c'est une maison de toile blanche qui glisse sur la route. Mais Harold arrivera-t-il à temps pour le spectacle de Mildred ? À l'ouest. Harold a dépassé les bornes. Ses parents l'envoient au Far West. À lui, les parties de poker, la danse du lasso et une course-poursuite avec une horde de bandits masqués. Attention aux coups de bâton sur la tête. Tordante la scène dans laquelle Harold tente d'échapper aux bandits, cachés derrière leurs larges pantalons ou dans une jupe accrochée au fil à linge. Voyage au paradis. Harold passe la bague au doigt de Mildred à l'aide d'une canne à pêche. Mais il pêche aussi des clients pour un ostéopathe, avec l'aide d'un acrobate et avec des gamelles impressionnantes, plutôt rebondissantes. À cause d'un malentendu, notre héros croit avoir perdu l'amour de Mildred. Il fait plusieurs tentatives de suicide, plus comiques les unes que les autres. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, n'est-ce pas ? Il rate son suicide, sans le savoir, et se croyant au paradis, il finit par escalader un gratte-ciel en construction, vertigineux et renversant.
Le petit cinéma.
Dirait un sportif.
Ah oui. Thank you. Je crois qu'il est toujours en route.
Oui, c'est ça. On dirait un acrobateur. Lors de la toute première séance de cinéma public, c'était en 1895, organisée par les frères Lumière à Paris, les 33 premiers spectateurs de l'histoire du cinéma découvrent stupéfaits 10 petits films très courts, dont le célèbre Arroseur arrosé, qui sera le premier film burlesque de l'histoire. Rapidement seront produites des séries de petits films drôles pour satisfaire la demande du public, parce que les gens ont besoin de rire. Le cinéma burlesque, c'est une avalanche de gags très physiques. On y voit des chutes, des poursuites, des cascades, des tartes à la crème en pleine poire, des coups de pied dans les fesses et des coups de bâton sur la tête. Et cela fait rire tout le monde, surtout les plus jeunes, parce qu'on peut montrer des films burlesques aux enfants, même très jeunes. Et personnellement, je suis toujours surprise et assez réjouie par la spontanéité du rire des enfants, qui, malgré l'absence de dialogue, comprennent immédiatement les gags visuels et éclatent de rire, alors que souvent les adultes relâchent plus difficilement leurs zygomatiques. Alors, profitez de cette séance en famille ou seul. Le rire est contagieux. C'est une bonne maladie de nos jours. Et si vous voulez, vous aussi, créer des gags, venez fabriquer un flipbook avant la séance du mercredi. À 9h, on imaginera les chutes et les acrobaties les plus surprenantes. L'atelier aura lieu, comme toujours, au pied de l'écran, à 9h, ce mercredi 3 février, juste avant la projection des 3 mésaventures d'Harold Lloyd à 10h. Pour réserver votre place à l'atelier, appelez Photokino au 09 50 38 41 68. Un atelier réservé aux plus de 6 ans. Rendez-vous au cinéma ou dans le caillou, dans la chaussure le mois prochain. D'ici là, rigolez bien.
Alors, pour terminer, à propos de rire, Nathalie, je te sens bien partie aujourd'hui. La fête du livre de jeunesse qui se déroule actuellement, qui vient de débuter, c'est ça? Ça a commencé aujourd'hui, du 27 au 31 janvier, dont le thème est le rire, Nathalie.
Oui, alors c'est la fête du livre de jeunesse de Saint-Paul, Trois-Châteaux, dans la Drôme. Alors bien sûr, ça fait un petit peu de route, mais ça vaut le détour. Alors, le week-end, c'est particulièrement riche en ateliers, et puis il y a des expositions, des auteurs en dédicace, des rencontres. Donc,
avec les auteurs.
Voilà, ouais. Et puis ensuite, d'abord, d'aujourd'hui à vendredi, c'est aussi un moment en plus pour les professionnels, où on peut assister à des journées d'échanges et de rencontres.
Et alors, oui, il y a un invité d'honneur.
Et oui, c'est toujours l'occasion pour la fête du livre d'inviter d'abord un auteur. Cette année, c'est Bruno Heitz, et puis beaucoup d'autres auteurs. Mais Bruno Heitz, comme certains, fera une exposition où on pourra
découvrir qu'il n'est pas simplement dessinateur. Enfin, on l'avait un petit peu compris à travers ces images. Il aime aussi les illustrations faites à base de collages. Il manie la linogravure, la sculpture sur bois. Voilà, c'est aussi un homme orchestre, un petit peu comme notre Tommy Ungerer. Et puis, bah, pour ceux qui ne l'auraient pas rencontré, il est plutôt très rigolo, Monsieur Bruno White. Ça tombe bien qu'il l'ait invité. Et puis, et ben dans
Mario Ramos.
Oui, Mario Ramos aussi.
Mario Ramos.
Oui. On l'avait rencontré sur une
émission,
un comptoir littéraire et une émission Caillou. Mario Ramos, bah, je sais que ces histoires de loups font bien rigoler les enfants. Ça sort un petit peu des histoires classiques de loups.
Voilà. Puis des auteurs à découvrir. Moi, il y a
beaucoup
des
d'auteurs chaque année. Oui.
Oh, il y a Delphine Perret.
Voilà, Delphine Perret qui était passée aussi dans l'émission. Marc Boutavant, j'ai noté parce que j'aime bien ce qu'il fait, Marc Boutavant. C'est l'auteur d'Ariol, notamment. Je ne sais pas si vous connaissez. Corinne Dreyfus aussi, qui travaille à Marseille, qui fait partie de l'atelier Pan.
Alors, toujours dans l'idée pour enfants et pour adultes, moi, c'est Marcus Malte qui me marque. Mais ça, c'est pour les adultes et c'est plus... je ne connais pas son travail jeunesse. Je suis curieuse, je pense que je vais y aller vendredi. Je suis curieuse de découvrir ce qu'il a fait.
Voilà, bon, en tout cas, ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. Parmi les ateliers, vous pourrez fabriquer des mots rigolos, découvrir l'art des onomatopées avec les ornicarinques, découvrir tout ce qu'on peut faire avec du chou rouge, manier l'art de la reliure japonaise, rire de l'ivresse des mots. Rencontrer Lorraine Capelli, et ça j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Lorraine Capelli. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis surtout.
Et des spectacles.
Des spectacles,
en nombre.
Oui, des spectacles, surtout le week-end. Et puis des moments sympathiques, surtout, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Parce qu'il y a une grande librairie très agréable, une grande librairie qui donne envie de lire, de se poser. On n'est pas obligé d'acheter.
Comment ça, on n'est pas obligé d'acheter? Oui, bien sûr qu'il faut acheter des livres, bien sûr qu'il faut se constituer une bibliothèque.
Oui, mais on peut aussi passer du temps à choisir.
Bien entendu.
Et ce qui est formidable au Salon Saint-Paul, c'est qu'on a des conseillers qui sont là pour vous, voilà, vous, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous aimez, et puis vous conseillent des livres, ça c'est génial. Voilà, donc il y a des salons d'essayage de livres, oui c'est ça que je voulais dire. Et puis des gens adorables, parce que Saint-Paul-Trois-Châteaux a beaucoup de bénévoles passionnés.
Bien, merci Nathalie. Un caillou dans la chaussure, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Sébastien Gély, Nathalie Guimard et nos invités. Prochain rendez-vous mercredi 24 février. Je vous rappelle que les émissions sont podcastables, qu'on peut les réécouter sur la page de l'émission sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Merci à tous, à très bientôt.
Merci Marie-Dominique, merci à vous pour votre écoute. À bientôt.